Et je remercie le Seigneur parce que bah, il m'a mis quelque chose à cœur. Parce que franchement, venir devant sans avoir rien à cœur, ce serait vraiment difficile. Mais bon, le Seigneur, c'est lui qui pourvoit la semence pour le semeur et il a pourvu à la semence. Donc il donne une idée, puis ensuite, bah, faut y travailler, il faut chercher des exemples, faut développer. Et j'espère restituer vraiment fidèlement le message que le Seigneur veut vous donner ce matin. Je voudrais prier d'abord. Seigneur, merci de ce moment que tu nous donnes autour de ta parole. Merci pour ce privilège que j'ai de partager ce que tu m'as mis sur le cœur. Seigneur, je veux te prier de m'aider, d'inspirer ma bouche pour que je puisse donner ton message, pas le mien, mais le tien, Seigneur, et que nos cœurs soient disposés à t'écouter, et que nous écoutions et que nous recevions ta parole comme une bonne terre. Amen. Donc, c'était pendant une lecture matinale que le Seigneur m'a adressé clairement une pensée. Ce que je lisais dans le livre des Actes. Donc, j'étais au chapitre 9 et je vais vous le lire. Donc, chapitre 9, versets 3 à 9. Ceux qui veulent y aller, je vous laisse un petit peu de temps. Donc, pendant ce temps-là, je vais situer le contexte de l'histoire. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 9. Et on lira les versets 3 à 9. Donc c'est un peu l'histoire de Paul, hein. On est au début, Jésus a été enlevé au ciel, on est au début, la naissance de l'Église. Et puis ben, Paul, Saul, à l'époque Paul s'appelait Saul, il était un persécuteur de l'Église et il croyait servir son Dieu. Hein, lui, il appliquait la loi. Et il était convaincu que ce qu'il faisait, c'était bien. Hein, c'était quelqu'un de très. Il était né dans la loi et il voulait à tout prix la suivre et il était prêt à tout pour cela. Et voilà, donc il se rendait à Damas. On est au verset 3. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Cette première question de Saul qui s'adresse à ce personnage qu'il ne connaissait pas du tout: Qui es-tu, Seigneur? Et c'est ça qui a attiré mon attention. Il a été amené à dire à Dieu: Mais qui es-tu? Parce qu'il croyait en un Dieu, mais il ne savait pas, il ne connaissait pas ce Jésus, ce Seigneur qu'il persécutait. Mais Dieu savait quel était ce personnage de Saul. Et il a sûrement trouvé en lui des qualités dont il avait besoin pour en faire un serviteur de Dieu, un brillant serviteur de Dieu, qui est d'ailleurs l'auteur de pas mal de livres dans le Nouveau Testament qui nous sont sacrément utiles. Dieu avait besoin de cet homme-là précisément, et rien n'arrête Dieu quand il appelle quelqu'un. C'était le pire ennemi des disciples, il était vraiment acharné, et c'est lui que Dieu avait choisi, c'est lui qui l'a arrêté en chemin. Il l'a ébloui, il en est tombé par terre, et là il a dit: Qui es-tu? Et à partir de ce moment-là, il s'est mis à savoir en qui il allait croire désormais. Quel était ce Dieu? C'était le même Dieu que celui des Hébreux, hein? Mais il ne le connaissait pas sous cet angle-là. Il n'avait pas compris que Jésus était le Messie envoyé par ce Dieu des Hébreux. Et il avait besoin de cette rencontre personnelle pour savoir enfin qui était ce Jésus. Et c'est le thème de ce matin, c'est l'importance de savoir en qui on croit. Et ça, c'est quelque chose qui est capital. Et Paul l'a un peu évoqué tout à l'heure, et j'étais content qu'il l'introduise, et on va justement y venir tout à l'heure dans des exemples. Paul avait besoin de rencontrer ce Dieu, et il avait besoin profondément de savoir en qui il croyait. Et d'ailleurs, ce même Paul, plus loin, dans 2 Timothée, au chapitre 1, versets 8 à 14, donc 2 Timothée 1, il s'adresse donc à Timothée, ce Paul, beaucoup plus tard, et il lui dit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Donc ce même Paul qui un jour a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Plus tard, il dira « Car je sais en qui j'ai cru. » Il ne le savait pas, et quand Dieu s'est révélé à lui, il a commencé à savoir qui était ce Dieu-là qu'il persécutait. Et à partir de ce moment-là, il pouvait dire « Je sais en qui j'ai cru ». Et c'est la question qu'on va se poser ce matin, chacun de nous. Je me la suis posée aussi, je me la pose encore ce matin. Est-ce que je sais en qui je crois ? Est-ce que tu le sais ? Quel que soit ton âge, hein, que tu sois âgé, que tu sois jeune, est-ce que tu peux dire comme Paul « Je sais en qui j'ai cru ». C'est une question qui est très importante. Parce que si tu ne sais pas clairement en qui tu crois, tu seras emporté. Et on va voir, hein, parce que à l'époque où nous vivons, ceux qui ne sont pas clairement affermis en Dieu, ils seront déracinés. Ça a toujours été vrai, hein. Mais je pense que l'époque dans laquelle on vit, nous sommes dans les temps de la fin, je pense que ce n'est un secret pour personne, les temps difficiles dont Paul a parlé quand il a écrit à ce même Timothée, on le verra tout à l'heure, nous sommes dans ces temps difficiles et j'ai vivement à cœur qu'on soit prêt à les affronter ces temps-là. Si on n'est pas prêt, il va falloir qu'on se dépêche de s'y préparer parce que ça va être dur. Ce serait mieux de vous dire que la belle vie arrive. Non, le meilleur, il est derrière. Mais le meilleur avec Dieu est devant. Mais humainement, c'est évident, ça va être difficile. Et Paul le disait tout à l'heure aux enfants. Oser dire qu'on est chrétien, ça va être de plus en plus difficile. On sera montré du doigt. Et on va regarder un peu. Pourquoi ce sera nécessaire de savoir précisément en quoi nous croyons. On va tout de suite regarder dans 2 Timothée, donc comme on était au chapitre 1, on va tourner quelques pages pour aller au chapitre 3, versets 1 à 5. Donc c'est l'apôtre Paul qui dit ça, qu'il écrit à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Ça, c'est une description Ben, si on regarde bien, ça ressemble quand même au monde dans lequel on est, hein. Et on a quand même tous l'impression que ces choses mauvaises avancent, accélèrent, et on s'y enfonce de plus en plus. Et si on n'est pas affermi, on flanchera. Et il faut qu'on soit affermi. Il faut, nous, plus anciens, qu'on soit profondément enracinés dans la parole de Dieu pour l'enseigner aux plus jeunes, à nos enfants, à nos ados, pour qu'eux-mêmes s'enracinent en ce Seigneur précieux qui va les conduire dans leur vie, pour qu'eux-mêmes puissent dire « Je sais en qui je crois ». On va continuer par rapport à ces temps difficiles dans 1 Pierre au chapitre 4. Au verset 17, 1 Pierre 4, verset 17, il est écrit: « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Ailleurs, dans l'Apocalypse, Dieu dira: « Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. » Les tièdes, ben, c'est ceux qui sont un peu entre les deux, qui boitent, qui clochent, qui avancent à cloche-pied. Et ça ne va pas. Le Seigneur, il veut qu'on soit profondément ancré en lui et qu'on sache précisément en qui on croit. Si tu n'es pas fortement ancré, tu ne vas pas tenir. Et on verra plus loin dans la parabole du semeur. Donc, des temps difficiles arrivent. Et même parmi le peuple de Dieu, il y en a qui vont se détacher, malheureusement. Et c'est écrit, hein, on sera dénoncé, vendu par des personnes de notre famille, par des personnes de l'Église. Et on pourra peut-être avoir des surprises. Et il faut être ancré en ce Dieu qui est le nôtre. Si on parcourt dans Luc au chapitre 21, le but de ces versets-là, c'est de nous montrer qu'on est arrivé maintenant dans ces temps difficiles. Luc chapitre 21, verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. C'est un verset que j'ai déjà cité ici. Mais combien ça commence à devenir vrai? Les hommes dans l'angoisse parce qu'ils ne savent que faire au bruit de la mer et des flots. Les inondations, on en a, vous me direz, mais il y en a toujours eu, mais il y en a de plus en plus. Si vous avez vu l'expédition au pôle Nord par les Russes toute récente pour vérifier l'état de la banquise, c'est complètement affolant, tellement tout fond. Ils ont dû utiliser des rails spéciaux pour réussir à faire que les véhicules de l'expédition ne s'enfoncent pas dans la glace, tellement elle était fragile. Ça, c'est un phénomène nouveau. C'est en train de fondre. Le niveau de la mer est en train de monter et l'abîme nous dit bien, hein, au bruit de la mer et des flots, si on continue au verset 26, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux, ça peut être dans le monde spirituel, mais ça peut être aussi compris comme étant les éléments naturels dans le ciel, la météo. Tout est perturbé et on le voit. Paul faisait de l'humour tout à l'heure avec la météo. C'est vrai qu'on n'a jamais une super météo dans le nord, mais quand même, ça s'aggrave. Et partout en France, même plus bas, les conditions ne sont plus du tout comme avant. On commence à tous le constater. C'est écrit dans la Bible. Nous sommes arrivés dans ces temps difficiles. C'est vrai que ça peut faire peur, mais le Seigneur nous a dit aussi, quand vous verrez toutes ces choses arriver, relevez votre tête, parce que votre délivrance approche. Mais en attendant cette délivrance, on va traverser ces temps difficiles dont il est question dans Timothée, dans ce qu'on a lu. Et si on n'est pas ancré, on aura du mal. Et on va continuer dans Luc 17. C'est pas innocent si Jésus a donné ces exemples. Dans Luc 17, versets 26 à 30, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de Dieu. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Nous voyons ces signes avant-coureurs du retour de Jésus. Le monde, il y en a certains qui quand même se posent des questions, c'est sûr. Mais le monde ne s'en rend pas compte. Pour eux, ça va venir comme une surprise. Un beau jour, Jésus va revenir et les nations se lamenteront. Il sera trop tard. Et de la même façon, ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Ce sera pareil. Vous voyez, deux exemples. Et on va justement se pencher un petit peu sur les caractéristiques de ces deux mondes dont Jésus a relevé l'exemple. Quelles sont les caractéristiques du monde au temps de Noé? Ben, si on va lire dans Genèse 6, versets 11 à 13, n'y allez pas, hein, je vais vous le lire. Si on regarde les caractéristiques de ce monde-là qui a précédé un peu la fin du monde, hein, la fin de ce monde-là, Jésus, que Dieu, quand il a regardé la terre au temps de Noé, il a dit « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. » Il est écrit « Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Voilà comment Dieu s'est adressé à Noé. Et il s'est adressé à nous de la même façon depuis que quand il était sur la terre déjà. Il nous l'a écrit dans les évangiles. Il nous a prévenus. Donc, le monde était corrompu et plein de violence. Regardez le monde d'aujourd'hui. Il est comment? Vous ne trouvez pas qu'il est plein de violence? Qu'il est corrompu? Quand on écoute les infos, qu'est-ce qu'on entend? Des choses bien agréables, que les gens sont bons. Bon, c'est vrai, à la radio, ben, on n'entend que les trains qui arrivent en retard, hein. Ça, c'est sûr. Mais il y a quand même de moins en moins de bonnes nouvelles à annoncer. C'est des meurtres, de la méchanceté, des viols, des agressions. Plein de mauvaises nouvelles. Maintenant, on va regarder le monde de Lot. Parce que Dieu a fait l'analogie hein, entre ces deux et c'est sûrement pas innocent. Le monde de Lot, si on va voir donc au verset 28 du chapitre 17 de Luc, hein, je vous l'ai lu juste avant, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. » Quelles sont les caractéristiques du monde dans lequel Lot vivait? On peut le lire dans Genèse au chapitre 18, verset 20. « Voici comment Dieu le qualifie. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. » Le péché de Sodome était énorme. Et si on regarde un peu plus loin, quel était le péché de Sodome? Vous le savez tous, ce qui caractérisait Sodome, c'était l'homosexualité. Regardez aujourd'hui, en France, regardez en Europe, il y a une volonté, une grosse volonté d'un lobby puissant à arroser l'Europe, à arroser la France de cette culture qui fait la promotion de l'homosexualité. On le voit, bon, on est plusieurs dans l'Église à avoir manifesté au niveau de la manif pour tous. Je suis pas là pour en parler, mais c'était pour défendre quand même ces valeurs chrétiennes qui sont les nôtres. Et nous sommes tous contre cette loi qui considère normal quelque chose que Dieu a appelé une abomination. nous ne pouvons pas considérer que c'est normal. La Bible condamne, ne condamne pas les homosexuels, mais condamne l'homosexualité. C'est quelque chose que Dieu n'accepte pas, c'est évident, c'est contre nature. Ça va à l'envers de la nature. Et aujourd'hui, les chrétiens, nous serons forcément montrés du doigt comme étant des homophobes. C'est évident, ça va arriver. Et si nous ne sommes pas profondément ancrés dans la Bible, si nos jeunes ne sont pas profondément ancrés dans cette culture biblique, dans cet enseignement biblique, ils pourront peut-être glisser et se dire « Oh, finalement, c'est pas si mauvais que ça. » Vous savez, il y a des églises hein, qui marieront des homosexuels. Il y a des chrétiens qui glisseront dans ce travers. Ça arrivera. Et nous, qu'est-ce qu'on fera? On restera dans les voies, dans l'enseignement profondément biblique, ou on glissera aussi? Pour ne pas glisser, il faudra qu'on soit profondément ancré dans la parole de Dieu. Si tu ne sais pas clairement en qui tu crois et pour qui tu vis, pour qui tu combats, tu seras emmené dans le flot d'impureté qui va déferler sur le monde qui va précéder le retour de Jésus. Vous imaginez, vous avez lu un peu, je me suis demandé si on avait à lire parce que c'est pas beau hein, ce qui est écrit dans Genèse 19. On va quand même le lire parce que peut-être que pour nos jeunes, ça peut leur donner un éclairage qui est important. Genèse chapitre 19, versets 4 à 9. Et on va essayer de se mettre dans le contexte de ces passages qui sont là, et ce n'est pas pour rien, c'est dans la Bible. Donc là, on arrive, on ne va pas tout lire parce que ça prendrait trop de temps, mais dans le contexte de l'histoire, on est aux côtés de Lot. Il y a deux anges qui sont venus le voir pour lui annoncer que, ben voilà, c'est décidé, Dieu va détruire Sodome et Gomorre. Et ils sont venus pour le sauver, lui. Pourquoi lui? Parce qu'il y en a un autre, son neveu Abraham, qui a intercédé pour qu'il ne soit pas détruit avec tous les autres. Et c'est pour ça qu'il y a deux anges qui sont là aujourd'hui dans cette histoire. Ces deux anges, ils sont arrivés, ils ont été repérés dans la ville de Sodome, et ils sont entrés, c'est le soir, ils viennent d'entrer chez Lot, et ils sont dans sa maison, et ils s'apprêtent à passer la nuit là, parce que Lot les a accueillis. Et voilà, ils n'étaient pas encore couchés, que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, « Retire-toi. » Et ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Vous savez la suite, hein, les deux anges sont intervenus, ils ont frappé tout ce peuple d'aveuglement. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire, là, vous l'avez compris? Ils voulaient les connaître, et les connaître, c'était pas leur serrer la main, leur dire bonjour. Hein. Dans la Bible, souvent, le verbe « connaître », quand on regarde, Adam connut Ève, sa femme, et elle devint enceinte. C'était avoir un rapport sexuel. Qu'est-ce qu'ils voulaient, ces hommes? Ben, ils voulaient donner en pâture ces deux anges qui étaient venus. Et Lot, il était vu comme injuste dans cette ville. Mais regardez comment il était quand même influencé. Il était prêt à livrer ses deux filles qui étaient vierges à ces brutes. Il était prêt à leur livrer. Et il avait choisi hein, cette contrée quand il avait dû se séparer d'Abraham. Il avait vu cette magnifique contrée verdoyante et Abraham avait pris ce qui restait. Mais Lot, tout en croyant en son Dieu, Il avait choisi de vivre au milieu du monde. Il avait choisi. Regardez un peu où il était arrivé. Pourtant, on nous dira quand même plus loin qu'il tourmentait son âme jour et nuit. Mais il en était où dans sa foi, dans sa solidité? Il était prêt quand même à livrer ses filles. Et quand vous regardez à quel point l'iniquité, le péché était ancré dans cette ville, dans cette population d'une culture homosexuelle profondément ancrée, notre monde d'aujourd'hui, on peut le comparer, peut-être pas, on n'en est pas encore là, mais tout laisse penser qu'on va y arriver. Tout s'est mis en place. Dans nos écoles, ça va arriver. C'est vrai qu'il y a un amendement qui a été retiré, mais il est en train de revenir en force. Le gouvernement a l'intention de faire appel à des lobbies, lobbies LGBT. Vous connaissez, vous savez ce que ça veut dire ? Lesbien, gay, transsexuel, bisexuel. Le gouvernement va faire appel à ces lobbies pour venir enseigner nos enfants contre l'homophobie et en vrai pour faire la promotion de cette nouvelle forme de sexualité qui n'a plus rien à voir avec la sexualité voulue par Dieu entre un homme et son épouse. Vous imaginez cette saleté qui va être répandue? Ils ont vraiment envie de répandre profondément, dès le plus jeune âge, ce péché, ce que Dieu a déclaré un péché, une abomination. Si ça continue à ce rythme-là, dans pas si longtemps que ça, notre monde va ressembler à Sodome. Où en serons-nous, nous ? Est-ce qu'on aura encore le courage de porter notre drapeau et de dire « c'est un péché ». Moi, je marche droit devant moi, je suis mon Dieu. Croyez-moi que si on n'est pas profondément ancré en notre Dieu, on arrivera peut-être comme Lot qui commençait à vaciller. Et je pense que Dieu le savait, ça. Et il l'a sorti avant. Il l'a sorti. Il est venu le cueillir au milieu de cette population infâme. Il a été arraché. Et sa femme n'a pas survécu. Elle s'est retournée pour regarder. Bon, elle voulait bien se sauver, hein, mais à contre-cœur. Il y avait tant de joie quand même dans ce monde. Elle s'est retournée, elle regrettait. Et elle y a laissé la vie. Lot, lui, s'est sauvé, mais tout juste. Et je pense qu'on peut rapprocher son salut de « si le juste se sauve avec peine ». Il s'est sauvé tout juste. Et nous, on va être sauvés tout juste ou on va rester ancrés ? Est-ce que tu sais précisément en qui tu crois ? Et moi, je suis quand même inquiet pour nos jeunes. Humainement inquiet, mais il faut les remettre entre les mains du Seigneur. Mais il faut les enseigner. Il faut profondément leur inculquer ces valeurs qui sont dans la Bible. Parce que si on ne le fait pas, le diable viendra, il déracinera le peu qu'on a mis et il y versera le péché. Alors il faut qu'on les enseigne. Il faut qu'on les arrose de cette semence pour que ça pousse le plus vite possible. Pensons un peu à Moïse. Il a été enseigné dans les voies droites du Seigneur. Et même s'il a été mis dans ce panier sur le Nil, par ses parents, il s'est souvenu de son enseignement. Jamais il n'a voulu suivre la culture égyptienne. Il est resté ferme dans sa foi d'enfant, celle qui lui avait été transmise dès son plus jeune âge. Il est resté là, il n'a pas voulu se laisser salir, imprégner par le savoir qui lui avait été transmis à la cour de Pharaon. Il est resté dans les voies droites du Seigneur. Jésus nous a aussi mis en garde. Si on va voir dans Matthieu 24, il faut que j'accélère parce que le temps passe. Jésus a dit, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Si Jésus nous l'a dit, c'est qu'il le sait que pour nous, ça va être juste, ça va être dur. Et il nous l'a dit, au verset 25 de Matthieu 24, « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » C'est pour ça qu'il nous l'a dit d'avance. C'est pour qu'on ne tombe pas, qu'on ne se laisse pas avoir bêtement. Il y en a qui vont venir et qui vont se faire passer pour le Christ. Ils feront des miracles, alors que nous, on pleure pour en avoir. On pleure pour en avoir et on n'en voit pas beaucoup. Et puis là, ben justement, il y en a qui vont venir et ils vont les avoir tout cuits, les miracles. Ça va nous faire un sacré défi. Et on aura peut-être envie de dire, « Oh purée, quand même, ça doit être eux qui ont raison. » C'est sûr, on sera tenté de se mettre à les suivre. C'est sûr. Parce que Jésus nous l'a dit, il connaît nos faiblesses. Mais alors, il faudra qu'on ressorte notre Bible pour lire au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même les élus. On est élus, hein. Et le diable va essayer de nous avoir, de nous déraciner, de nous verser de la saleté dessus. Mais de la saleté qui, ça ne se verra pas trop, ce sera quand même assez, ça aura l'apparence de la piété. Et si tu ne sais pas en qui tu crois, tu te feras avoir. Et moi, je n'ai pas envie que tu te fasses avoir. Il n'y en a aucun de nous ici qui a envie que nos jeunes se laissent avoir. Alors sachez bien en qui vous croyez. Ne vous laissez pas distraire par notre monde qui est sale, avec une saleté qui peut paraître propre. Voici, nous a dit Jésus, je vous l'ai annoncé d'avance. Vous le savez, on vous fera croire que c'est Jésus qui est revenu. N'y allez pas, parce que de la même façon que quand il y a un orage, l'éclair se répand depuis l'Orient jusqu'en Occident, alors on le verra. On le verra, ce Jésus qui reviendra. Ça ne passera pas inaperçu. Alors s'il est venu et qu'on ne l'a pas vu, c'est que c'est un faux. C'est que c'est un maquillage, c'est que c'est une mesquinerie, c'est un mensonge. Alors n'y allez pas. Donc, je pense que vous êtes convaincus, et si vous ne l'étiez pas, j'espère vous en avoir convaincus, nous sommes dans ce monde qui est qualifié de difficile, et je ne veux pas qu'on s'inquiète outre mesure, notre délivrance arrive, mais il ne faut pas s'attendre à des choses faciles, parce que l'apôtre Paul l'a écrit à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Donc ça, il faut que ce soit ancré en nous. Si c'est difficile, dites-vous bien que c'est normal. C'était prévu. C'est au programme. Mais Jésus revient. Et de la même façon qu'il a délivré Noé du déluge, de la même façon qu'il a sorti Lot avant que le feu ne tombe, de la même façon, Jésus va revenir et il va nous enlever auprès de lui. L'analogie est toute faite, hein. Il va venir nous enlever avant de détruire la terre par le même fléau que ce qu'il a infligé à Sodome et Gomorre. La terre est réservée pour le feu. Ce sera un déluge de feu. Ce ne sera plus un déluge d'eau, mais un déluge de feu. Mais il viendra nous retirer avant. Mais d'ici là, ce sera sûrement difficile. Comment nous ancrer davantage en notre Dieu? Comment mieux savoir en qui nous croyons? C'est la question à laquelle je voudrais répondre maintenant. Parce que c'est important de s'ancrer. Jusque-là, j'ai montré que c'était important de savoir en qui nous croyons. J'ai montré pourquoi il fallait être affermi et savoir en qui nous croyons. Maintenant, on va se pencher sur la question comment mieux croire, mieux savoir en qui nous croyons. Ben, en premier lieu, il faut être une bonne terre. Il faut être cette bonne terre dont a parlé Jésus dans Matthieu 13. Écoutez ce que Matthieu 13, donc chapitre 13, verset 18. « Vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. » C'est Jésus lui-même qui parle. Hein. « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc si tu ne comprends pas la parole de Dieu, ben, elle n'a pas d'effet en toi. Le malin se dépêche de passer derrière et terminé. Alors j'espère que ce matin tu comprends la parole de Dieu. J'ai fait des gros efforts pour être clair. Je pense que tu l'as compris. Celui qui a reçu la semence dans un endroit pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. C'est ce qui peut arriver quand on est tout jeune. On a plein d'entrain pour Dieu. On dirait qu'on va abattre la terre, qu'on va tout changer. Et écoutons la suite. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alors c'est bien d'avoir cet entrain jeune, d'être pétillant. Mais il faut s'enraciner. Il faut s'enraciner dans la parole de Dieu. Parce que si tu n'es pas enraciné, tu seras arraché. Continuons. « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Les soucis du siècle. Nous sommes dans des temps difficiles. Des soucis, on va en avoir. On en a déjà. Et on en aura sûrement encore plus. Et il va falloir faire attention que ces soucis ne viennent pas étouffer la parole de Dieu, les bonnes graines. On le sait tous, hein, on est pas mal à avoir un potager. On voit bien, on sème des bonnes choses dans notre jardin, mais malheureusement, il y en a plein de mauvaises qui poussent à côté. Et il faut se battre en permanence pour arracher les mauvaises herbes en faisant attention de ne pas arracher le bon. Et il faut que le bon croisse. Et enfin, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Qui entend la parole et la comprend. Il faut l'entendre et la comprendre. La comprendre avec la tête, peut-être, certes, mais aussi et beaucoup avec le cœur. Parce que la parole de Dieu s'adresse au cœur. Et là, un grain, on donne 100, un autre 60, un autre 30, peu importe. Que ce soit 100, que ce soit 60, que ce soit 30, l'essentiel c'est de se mettre à germer et de porter du fruit. Et c'est à ça qu'on reconnaît le bon arbre du mauvais. Le bon, il porte de bons fruits. Et le mauvais, il porte de mauvais fruits. C'est à ça qu'on reconnaît. Et il faut qu'on soit cette bonne terre. Dans Jacques, chapitre 1, versets 21 à 25, il est écrit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Recevez avec douceur cette parole qui a été plantée en vous. On est encore dans la bonne terre, là, hein. Dans cette même, c'est beaucoup plus loin, c'est Paul qui a écrit ça à Jacques. C'est Jacques qui a écrit cette épître. Et il fait une analogie aussi avec la parabole du semeur. Il est toujours question d'une parole qui a été plantée en nous et qui va sauver notre âme. C'est la parole de Dieu qui sauve notre âme. Dans Éphésiens 3, on ne va pas tout lire. On va lire juste le verset 16. Non, verset 17. « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. La nécessité, d'être enraciné et fondé dans l'amour que le Seigneur nous a donné. » Toujours cette analogie des graines semées qui s'enracinent. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es enraciné dans la parole de Dieu? Et comment veux-tu l'être si tu ne la lis pas, est-ce que tu la lis assez? Est-ce que tu en fais ton livre de chevet? Comment est-ce qu'on peut la connaître et la comprendre si on ne prend pas le temps de la lire? D'accord? On peut dire, bah ouais, le Seigneur, il va se révéler. Ouais, mais il s'est révélé dans la Bible. Il nous a laissé sa parole. Il faut la lire, la lire, la lire, et encore la lire, et la relire. Parce qu'on en découvre tous les jours. Même si on relit des versets qu'on a déjà lus, on en découvre encore dans ces mêmes versets. Et si on veut s'enraciner dans notre Sauveur, il faut qu'on la lise, cette Bible. Il faut qu'on s'en imprègne. Et plus on en est imprégné, moins la saleté n'aura de pouvoir sur nous. Vous savez, une éponge qui est remplie d'eau, vous pouvez la mettre dans de l'eau sale, vous pouvez la ressortir, elle va être propre parce qu'elle était déjà gorgée d'eau propre. Si l'éponge n'est pas imbibée d'eau propre, vous la mettez dans de l'eau sale, elle va s'imbiber de l'eau sale parce qu'elle était sèche avant. Alors plus on est imbibé d'eau propre, de cette eau pure de Dieu, même si on est dans un monde sale, le monde sale n'aura pas de pouvoir sur nous. Si on regarde un peu les vierges, elles avaient gardé les vierges folles et les vierges sages avant le retour de l'époux. Elles s'étaient toutes endormies, hein, sages comme folles. Et Jésus a dit « La nuit vient où plus personne ne pourra travailler ». Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je ne travaille plus, quand je ne travaille pas, ben je m'endors. Parce que si on n'est pas en activité, inexorablement, on s'assoupit et on s'endort. Et moi, c'est ça, je fonctionne comme ça. Si j'ai rien à faire, je m'endors. Soit j'arrive à trouver, soit je m'endors. Et je fais une sieste. Ben, les 10 vierges, elles s'étaient toutes endormies. Peut-être parce que c'était la nuit. Et de toute façon, c'était la nuit. C'est écrit dans cette parabole. Et soudain, l'époux est arrivé. Et là, il y a eu une différence entre les 5 et les 5. Il y en a 5 qui avaient une réserve. Elles étaient encore imbibées. Elles étaient ces éponges imbibées d'eau claire. Et elles étaient prêtes. Elles ont pu allumer leurs lampes. Et elles ont pu entrer. Elles ont été sauvées. Et il y en a qui n'étaient pas prêtes. Elles s'étaient endormies, mais elles n'étaient pas prêtes. Elles n'auraient pas dû s'endormir. Puis elles ont raté le coche. Et nous, on est où? On a cette huile, on a cette réserve, on s'est laissé imbiber de la Bible, de la parole de Dieu, de son esprit. Et justement, parlons-en du Saint-Esprit. On en a besoin pour tenir, ce n'est pas une option. Ça a été dit déjà plusieurs fois ces derniers temps. Regardez un peu Paul, avant sa conversion et après sa conversion. Voyez pas la différence de personnage? Qu'est-ce qui a changé? Il a rencontré Dieu. Il s'est mis à dire « Je sais en qui je crois », mais il a reçu l'Esprit de Dieu. Avant, il ne l'avait pas du tout. Regardez Pierre, il est souvent donné en exemple. Ce Pierre d'avant la Pentecôte et ce Pierre d'après la Pentecôte. Avant la Pentecôte, ce Pierre, oh, humainement, ah, il avait c'était dans ses tripes hein, d'aimer Jésus. Il était prêt à tout, de mourir même avec Jésus. Et quand il a dit ça à Jésus, Jésus lui a dit « Tu sais Pierre ». Cette nuit, tu vas me renier. Et Pierre, mort, voyons Jésus, c'est pas possible. Oui, mais il comptait sur ses propres forces. Et le même Pierre, plus tard, après la Pentecôte, il prêche. Vous avez vu le nombre de conversions? Il n'a pas prêché avec ses paroles. Il n'a pas prêché avec son énergie à lui. Il n'a pas prêché avec ses tripes. Il a prêché avec l'Esprit de Dieu. Et vous avez vu la différence de résultat. Et nous, on a besoin d'être remplis de ce Saint-Esprit. Les exemples ne manquent pas dans la Bible. Hein. On en a évoqué hier soir en famille. Noé, il savait en qui il croyait. Hein. Vous imaginez, il a construit son bateau. Tout le monde se fichait de lui. Il n'y a jamais eu d'eau à cet endroit-là. Tu t'en vas faire un bateau. Ça a duré des décennies, la construction de son bateau. Mais il a construit son bateau. Parce qu'il savait en qui il croyait. Il savait que ce Dieu qui lui avait dit « Fais-toi une arche, je vais détruire ce monde », il a construit son bateau, peu importe de tout ce qui se moquait de lui. Et pourtant, il n'était pas dans un monde beau, hein? Un monde plein de violence et de corruption, on l'a lu tout à l'heure. Il a construit son bateau. Et puis un beau jour, il a plu. Les écluses des cieux se sont ouvertes. La terre a envahi, l'eau a envahi la terre. Son bateau s'est mis à flotter. Il avait raison. C'est lui qui avait raison. Et nous aussi, on a raison. Notre Bible, elle nous dit ce qui est vrai. Jésus revient. Et il faut qu'on soit affermi, qu'on tienne bien. Il nous a tout prévenu en avance. Abraham aussi, il a cru, il savait en qui il croyait. Quand ce Dieu lui a dit, allez, tu quittes ton pays, ta patrie, tu... Oh, mais j'étais bien quand même là, j'avais tout mon confort. Mais non, tu quittes et tu t'en vas. Et en plus, sans même lui dire où il devait aller. Vous imaginez? Tu t'en vas dans un pays que je te montrerai. Je ne le dis pas aujourd'hui, je te le montrerai plus tard, mais tu t'en vas. Vous partiriez, vous? Là où vous ne savez pas où vous allez? Ben, lui savait en qui il croyait. Et il a obéi et il est parti. On pourrait parler de Daniel aussi. Hein, dans la fosse aux lions, dans la fournaise, devant le roi qui lui a donné, Nebuchadnezzar, hein, qui lui a donné plein de richesses. Quand même, Daniel, c'était pas n'importe qui, c'était un illustre, un sage. Il avait été mis sur un sacré piédestal. Il avait le gouvernement de plein de provinces. Et puis, il se trouve devant le Dieu, il devait adorer la statue du roi. Il aurait pu quand même faire une concession, vous trouvez pas, vous? Au moins s'incliner un petit peu devant cette statue pour rester bien vu? Non. Il y a du roi, tu sais, c'est même pas la peine de me donner une deuxième chance. Je n'adorerai jamais ta statue. Il était prêt à tout perdre. Il savait en qui il croyait. Il savait que le Dieu en qui il croyait était capable de le délivrer de la fournaise et plus tard de la fosse aux lions. Il est resté droit. Il savait en qui il croyait. Sinon, on pourrait aussi terminer. Je vais finir dans les temps, c'est bien. Un petit exemple perso. Moi, avant, je savais que j'étais debout. Je servais le Seigneur. Et quelque part, je savais que c'était par mes forces, par mon énergie, par mon dynamisme. Et puis je me suis trouvé profondément malade, à plat. Je suis devenu une loque, terrassée. Il ne restait plus rien de moi. Plus rien. Aujourd'hui, je sais profondément en moi que si je tiens debout, ce n'est pas par mes forces, c'est par la grâce de Dieu. Parce que c'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a relevé. Et c'est par sa grâce que je tiens debout aujourd'hui. Et je sais en qui j'ai cru. Je sais que c'est ce Dieu qui est venu dans ma vie, qui m'a sorti, qui m'a mis sur mes pieds et qui me tient aujourd'hui. Et je voudrais terminer par un petit verset dans Romains 14. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? S'il reste debout ou s'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Mais il restera debout parce que le Seigneur est capable de le soutenir. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous avons tous des moments où nous flanchons, où c'est dur, où nous tombons. On avait notre sœur la semaine passée hein, qui criait au Seigneur parce qu'elle se sent trop faible. Moi aussi, je me sens faible. Mais peu importe. Même si on est faible et qu'on tombe un peu à genoux parce qu'on n'en peut plus, il y a un verset que j'aime bien et que j'ai cité la semaine passée, « Cette fois le juste tombe et il se relève. » Et il se relève pourquoi? Parce qu'il est plus costaud qu'un autre? Non, il se relève parce que le Seigneur est capable de le soutenir. Et si on traverse des temps difficiles, qu'on ne sent plus l'énergie en nous pour tenir, sachons bien que ce Dieu en qui nous croyons, il est capable de nous faire tenir debout jusqu'à la fin. Et ça, il faut qu'on en soit convaincu. Mais il faut que tu le connaisses, ce Dieu. Si tu veux bénéficier de sa grâce, si tu veux bénéficier de sa puissance qui te tient, il faut que tu l'aies rencontré. Il faut que tu le connaisses. Et là, je m'adresse à ceux qui sont ici et qui ne l'ont pas encore rencontré. Ben, il est temps. Il faut y aller. Il faut courir à sa rencontre. Parce que le temps presse. Je ne veux pas vous affoler, mais on est dans les temps de la fin. Et il faut s'y mettre, il faut se laisser le temps de s'enraciner en notre Dieu pour être fort et tenir debout pour les temps qui viennent. Voilà, je voudrais qu'on termine en priant. Paul qui est parti, il m'a demandé de conclure. Donc on va courber nos fronts et on va se poser la question. Dans ce moment de recueillement que je souhaite, on va se poser la question, est-ce que je sais suffisamment fort en qui je crois? Est-ce que Dieu a marqué ma vie? Est-ce que je suis marqué du sceau de Dieu? Est-ce que je me suis laissé marquer du sceau de Dieu? Est-ce que je suis prêt pour son retour? Est-ce que je suis prêt pour les temps difficiles qui arrivent? Est-ce que je suis prêt au lycée, au collège, à la fac, au boulot, à tenir bon, même si on se moque de moi? Même si on me montre du doigt, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je sais assez en qui je crois pour tenir? Si tu dis non, alors tu as eu des éléments ce matin pour t'y mettre. Il faut que tu t'enracines, que tu te laisses remplir de cette source d'eau vive que tu vas trouver seulement en ton Sauveur en Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Fais que chacun de nous ici sache précisément en qui il croit et pourquoi il croit en toi. Que chacun nous soyons profondément déterminés à te suivre jusqu'au bout, même si c'est dur. Que dans ce moment de recueillement, on puisse chacun se poser la question. Est-ce que je sais en qui je crois? Est-ce que je connais ce Jésus comme Paul le connaissait? Seigneur, descends dans nos cœurs et remplis-nous de toute ta présence, de tout ton esprit, de cette connaissance de toi, de cet amour profond pour ta parole, afin de tenir bon. Merci pour l'amour énorme que tu as pour nous, car même si nous sommes faibles, tu nous aimes exactement de la même façon que les forts. Et si nous voulons tenir, tu vas nous donner les moyens de tenir, Seigneur. Merci pour ton amour pour nous. Amen.